RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. La ministre des Finances veut continuer à approfondir le marché obligataire. Le vice-président indonésien a dirigé la délégation indonésienne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministère indonésien du Tourisme prépare 33 paquets touristiques pour les délégués à la réunion du FMI et la Banque mondiale. Les géologues et les experts du volcan se sont réunis à Toba. Les États-Unis soutiennent le développement de villages intelligents à Banyuwangi. Et enfin, le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfant cible les zones sujettes de TPPO. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a demandé à son personnel du ministère indonésien des Finances, en particulier la Direction générale du financement et de la gestion des risques, ou DGPPR, d'approfondir le marché des obligations d'État. L'approfondissement du marché est réalisé par le biais de ventes à divers directeurs commerciaux dans le pays et par la diversification des instruments. Lors d'une conférence de presse intitulée « Notre budget d'État à Jakarta », Sri Mulyani a récemment expliqué que l'approfondissement du marché est étroitement lié au montant de l'épargne des ménages, des entreprises et du gouvernement indonésien.
Ya, mungkin yang bisa dan akan kita lakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Peut-être ce qui peut et va être fait au sein du ministère des Finances à travers la diversification des ventes aux divers gestionnaires de fonds dans le pays et de la diversification des instruments. Nous ferons pour approfondir le marché, mais l'approfondissement du marché repose essentiellement sur l'offre de financement dans le pays. C'est-à-dire que si l'écart d'investissement en Indonésie reste négatif, cela signifie que nous emportons des capitaux de l'extérieur. Par conséquent, l'approfondissement du marché est lié au montant des économies réalisées par les ménages, les entreprises et le gouvernement. Sri Mulyani a ajouté qu'elle appréciait les efforts d'approfondissement du marché par le biais de la vente au détail des obligations d'épargne ou SBR 004 et de la commande en ligne tout en augmentant l'intérêt de la communauté au sens large. Le résultat des ventes de SBR représente un potentiel important pour continuer à approfondir le marché et cibler davantage d'acheteurs nationaux afin de renforcer un marché obligataire stable. Elle espère également que dans un environnement de plus en plus dynamique, le DGPPR peut améliorer la capacité de maintenir le risque de financement par l'État à partir d'instruments nationaux, étrangers et d'autres instruments. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a dirigé la délégation indonésienne à la 73e Assemblée générale des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York. Antara a rapporté que le vice-président est arrivé à New York dimanche à midi heure locale. Selon le porte-parole du vice-président indonésien Hussein Abdullah, samedi soir, heure locale à New York, le vice-président a commencé l'agenda en assistant au sommet pacifique de Nelson Mandela lundi heure locale, comme suivi des décisions dans la résolution numéro 72 de 143 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 22 décembre 2017. La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies a indiqué, entre autres, que les États membres des Nations Unies avaient tenu une réunion plénière de haut niveau sur la paix mondiale pour respecter la commémoration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. La réunion, assistée par les chefs d'État, aurait lieu du matin au soir. En outre, le vice-président doit faire connaître son point de vue lors du débat général de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, jeudi, heure locale. Le ministère indonésien du tourisme a préparé 33 paquets touristiques qui sont offerts aux délégués et aux participants à la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du 8 au 14 octobre. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré à Badung, Bali, samedi, qu'il vendait la destination la plus proche du lieu de la réunion pour augmenter l'économie de la communauté. Arif Yahya a expliqué que pour les 33 paquets touristiques, il y avait 3200 délégués avaient visité website du ministère du Tourisme et il y avait 302 personnes, soit 9% avaient commandé. Selon le ministre, en global, sa partie a offert 7 destinations touristiques en Indonésie avec 63 forfaits touristiques, mais pour Bali, seulement 33 forfaits ont été offerts. Par ailleurs, le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aurait un impact majeur sur l'économie indonésienne. Les géologues et les experts des volcans à l'échelle mondiale ont participé au séminaire sur la caldeira et la super-éruption à Tuktuk, Samosir, la région de l'Aktoba, au nord de Sumatra, samedi. Selon le communiqué de presse du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales à Jakarta, le séminaire était l'un des principaux événements de la série du 7e atelier international sur l'effondrement de la caldeira. L'atelier est organisé conjointement par l'Agence géologique du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales et l'Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre, participée par environ 69 experts et chercheurs dans le domaine de la géologie et des volcans à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'atelier comprenait des séminaires, des discussions de groupe et des visites sur le terrain depuis le samedi au jeudi le 27 septembre. Le thème du séminaire est l'évaluation des impacts potentiels des super-éruptions sur les communautés et l'environnement. Le séminaire discutera l'impact potentiel dans le domaine social et écologique de l'éruption, comme la caldeira de la Garita à Colorado, aux États-Unis, Toba dans le nord de Sumatra, Taupo en Nouvelle-Zélande et Aira à Kyushu au Japon. Margaret Hanson Moose, la conseillère régionale du département du commerce des États-Unis à Singapour, a déclaré que son gouvernement était prêt à faciliter le développement de Kampung Pintar au village intelligent à Banyuwangi dans l'est de Java. Margaret est venue à Banyuwangi pour voir diverses opportunités de développement de Kampung Pintar à Banyuwangi samedi. Margaret a dit qu'elle avait une variété de ressources qui pouvaient être utilisées par Banyuwangi. Le gouvernement des États-Unis peut faciliter le développement de villages intelligents avec le soutien des dernières technologies. Elle s'intéresse également au renforcement des capacités de ressources humaines et a proposé la mise en œuvre de programmes de formation, notamment dans le domaine de la langue et du renforcement des capacités pour le tourisme culinaire. L'engagement du gouvernement indonésien est très fort dans la lutte contre l'acte criminel de traite des personnes ou TPPO. Cela est vu du cadre réglementaire complet et de l'institutionnalisation du traitement au niveau central et régional depuis l'adoption de la loi numéro 21 de 2007 concernant l'élimination des crimes de traite des personnes. Le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance intensifie ses efforts pour accroître la compréhension et les connaissances de la communauté afin de prévenir le TPPO. L'un d'entre eux est qu'il a tenu une socialisation de femmes TPPO à Serang, Banten, en tant que zone sujette à l'acte criminel de traite des personnes ou TPPO. La province de Banten est une zone prioritaire pour TPPO car c'est l'une des zones d'origine, de transit et de destination de TPPO. La ministre de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Yohana Yembise, dans la ville de Serang, en province de Banten, dimanche, a déclaré que la détection précoce de la communauté, du groupe de travail, de TPPO et du gouvernement local était nécessaire. TPPO est un crime grave contre l'humanité en utilisant des syndicats et une indication de l'exploitation humaine. Ainsi, les efforts de prévention doivent être améliorés pour minimiser les causes de TPPO, les efforts visant à traiter les victimes et les efforts d'application de la loi pour les auteurs de TPPO. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre La campagne électorale pacifique 2019. La fête démocratique en Indonésie, à savoir l'élection présidentielle et candidat législatif 2019, entre dans la phase de campagne. La période de campagne électorale est commencée le 23 septembre 2018 jusqu'au 13 avril 2019. Cette étape a marqué par la déclaration de la campagne électorale pacifique 2019 qui était lue par le président de la commission électorale Arif Budiman, suivi par les candidats à la présidence et vice-président et président des partis politiques participant aux élections 2019 à Monas, Jakarta, dimanche matin. La campagne électorale pacifique de 2019 a été commencée par un carnaval des partis politiques participant à l'élection. Les présidents, les conseillers d'administration et les sympathisants des partis politiques ont porté des vêtements traditionnels de différentes régions d'Indonésie. Pour rappeler que la diversité d'Indonésie devient une seule entité. La déclaration de la campagne pacifique pour l'élection 2019 est également marquée en libérant une colombe comme symbole d'espoir que les élections de 2019 seront pacifiques et sécuritaires. Le thème de la campagne électorale pacifique de 2019 est la campagne anti-ethnique, religieuse, raciale et anti-groupe et anti-canular pour faire des électeurs souverains pour que le pays soit fort. Pourquoi la question de l'anti-Sara et anti-canard existe au thème? En effet, l'expérience nous enseigne que ces deux choses sont très faciles à enflammer les émotions d'une personne, notamment les partisans plus fanatiques des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence. Les questions ethniques, religieuses, raciales et entre groupes sont souvent utilisés par plusieurs partis pour provoquer certaines personnes ou certains groupes. Le nombre d'utilisateurs d'Internet augmente en Indonésie et il y a la possibilité de diffusion de fausses nouvelles également aussi. Cette fois, en Indonésie, les utilisateurs d'Internet ont atteint plus de 143 millions. La forte détermination qui est déclarée par les organisateurs, les partis politiques participant aux élections 2019 et candidats à la présidence et vice-président pour créer un État s'est reflétée dans la déclaration de la campagne pacifique. L'Indonésie est déterminée à organiser les élections directes, publiques, libres, confidentielles, honnêtes et équitables, c'est-à-dire en menant la campagne électorale qui est sûre, ordonnée, pacifique, intégrée, sans canular, sans politisation de Sara ou la politique de l'argent basée sur les lois et règlements en vigueur. Pour réaliser cette question, on a besoin de l'engagement total des différentes parties. L'engagement de l'équipe de campagne des partis politiques et des candidats présidentiels à prendre des mesures fermes s'il y a des partisans qui mènent des campagnes de canular doit être soutenu et prouvé. La police devrait imposer des sanctions juridiques sans discernement aux épandeurs de canulars. Les patrouilles dans le cybermonde doivent également être renforcées. Mais la chose la plus importante est que les électeurs doivent être plus avisés pour répondre à la diffusion des informations. Les électeurs doivent être sages pour accepter, filtrer et diffuser des informations. Ils sont la clé de la réalisation de la campagne de paix électorale de 2019 sans canular et la question de Sahara. Le peuple indonésien espère que la campagne pacifique des élections 2019 pourra se dérouler jusqu'au jour de scrutin. Les élections pacifiques et sûres prouveront au monde que dans la démocratie, l'Indonésie est capable de réaliser et de maintenir la paix. Cher Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 24 septembre. Le 24 septembre 1960, la loi agraire est établie. Le 24 septembre 1963, la déclaration de la Journée nationale des agriculteurs. La Journée nationale des agriculteurs est célébrée chaque année le 24 septembre, principalement par les agriculteurs en Indonésie. Le 24 septembre 1960, le président de la République d'Indonésie Sukarno a promulgué la loi numéro 5 de 1960 sur le règlement de base des principes agraires. La loi réglemente les droits et obligations des paysans, les droits fonciers, les droits aux ressources agraires à être gérés et utilisés pour la prospérité des agriculteurs et de la nation. La détermination de la Journée nationale des agriculteurs basée sur la décision du président Sukarno le 26 août 1963, numéro 169-1963. Le 24 septembre 1973, l'indépendance de la Guinée-Bissau. La République de la Guinée-Bissau est un pays situé en Afrique de l'Ouest. La Guinée-Bissau, autrefois, faisait partie du royaume de Kabou, qui fait partie de l'Empire du Mali. Une partie de ce royaume a survécu jusqu'au XVIIIe siècle, tandis que d'autres font partie de l'Empire portugais. Ensuite, la Guinée-Bissau, devenue la partie de la colonie portugaise, la Guinée-Portugal, au 19e siècle. Après l'indépendance qui a été déclarée le 24 septembre 1973 et reconnue en 1974, le nom de sa capitale, Bissau, a été ajouté au nom du pays pour éviter la confusion avec l'État de Guinée. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serge Ritok, voici donc mon Indonésie et pour le titre, les fondamentaux économiques d'Indonésie sont encore solides. La Banque mondiale considère que les projections économiques d'Indonésie restent positives malgré une incertitude mondiale croissante. Cela est dû au fait que la consommation privée et du gouvernement qui est plus forte est capable de porter la croissance du produit intérieur brut réel à 5,3% au deuxième trimestre de cette année. Le directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Rodrigo A. Chavez, dans le rapport trimestriel économique d'Indonésie de la Banque mondiale de l'édition de septembre 2018 à Jakarta, jeudi, a déclaré qu'il est également vu de l'engagement du gouvernement indonésien à maintenir la stabilité politique stricte et coordonnée. Il a souligné que les solides fondamentaux macroéconomiques avaient renforcé la résilience de l'Indonésie au milieu de l'incertitude mondiale croissante. Selon Rodrigo, la croissance économique de l'Indonésie pourrait atteindre 5,2% cette année et également en 2019, soutenue par des investissements solides, l'inflation stable et le marché du travail solide. Puis, c'est pour renforcer progressivement jusqu'à 5,3% en 2020. Rodrigo a expliqué que l'Indonésie a réduit les taux de pauvreté de 19,1% en 2000 à 9,8% en 2018. C'est une bonne opportunité pour la croissance économique, en particulier dans des zones urbaines. La Banque mondiale a déclaré que des meilleures opportunités économiques, en particulier dans les zones urbaines, ont aidé de nombreux habitants à sortir de la pauvreté et à faire partie de la classe moyenne. Plus de la moitié de la population indonésienne vit actuellement dans des zones urbaines. Frederico Gilsander, économiste en chef de la Banque mondiale Indonésie, a ajouté que l'urbanisation pourrait être un facteur important de la croissance économique et de réduction de la pauvreté. Mais s'il n'est pas géré correctement, les pertes dues à la pression seront supérieures aux bénéfices. Pour générer le potentiel d'urbanisation, le gouvernement centraux et régionaux doivent collaborer pour mener des réformes politiques et institutionnelles. D'autre part, l'évaluation positive de la croissance économique de l'Indonésie par la Banque mondiale a également entraîné un renforcement du taux de change de la rupiah par rapport au dollar américain de 22 à 14 823 rupiah pour les transactions interbancaires à Jakarta vendredi. Reza Priyambada, analyste à l'Institut de recherche de la CSA, a déclaré vendredi à Jakarta qu'une évaluation positive de la Banque mondiale estimant que la croissance économique de l'Indonésie à 5,2% a également contribué au sentiment de renforcement de la rupiah. Reza a ajouté que la Banque mondiale estimait que le renforcement de la demande intérieure en Indonésie continuerait d'être un moteur de la croissance économique. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Voici donc le magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons la place Mandora qui se trouve à Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Au sud-ouest de la province de Nusa Tenggara Est se trouve l'île Sumba. Cette île a une topographie accidentée avec une savane très large et a une attraction touristique étant connue au monde. À cette île, on peut encore trouver les objets culturels et mégalithiques conservés jusqu'à aujourd'hui. Sans surprise, Sumba, par les scientifiques archéologues, souvent appelée la culture mégalithique qui continue à vivre il y a 4500 ans. En plus des vestiges culturels mégalithiques, Sumba également une variété d'étonnantes attractions touristiques maritimes, car Sumba se trouve juste à côté de l'océan Indien au sud. L'une des plages qui est encore belle est la plage Mandorak. Cette plage est située au village Perobatang, sous-district Kodi, la résidence Sumba Sud-Ouest, Nusa Tenggara Est. La distance est 42 km de Tambolaka, la capitale de la résidence Sumba Sud-Ouest. De Kupang, capitale de Nusa Tenggara Est, Tambolaka peut être atteint en avion. De l'aéroport Tambolaka, vous avez seulement deux choix de transport, à savoir moto-taxi ou location de voiture. Le tarif de location d'une voiture de l'aéroport à la place Mandorak est autour de 150 000 à 300 000 rupiah. Quand à la moto-taxi, le coût est 100 000 à 150 000 rupiah. Ce taux n'est pas fixe en fonction de votre capacité à négocier le prix. Le trajet de l'aéroport à la place Mandorak prend environ 3 heures. La plage Mandorak est à seulement 50 mètres de large et se trouve derrière les falaises abruptes et elle relie à la mer à 3 mètres de large. Pour y arriver, les visiteurs doivent passer à travers les sentiers à pied. La plage Mandorak a du sable blanc propre comme des perles. La couleur bleu-verte qui domine la côte montre la côte Mandorak claire. Martèlement des vagues aussi assez fortes, tant de touristes qui viennent à surfer sur cette plage. Mais vous pouvez toujours nager à cette plage. Dans ce lieu, il y a aussi une cascade qui peut être utilisée pour la baignade. La vue sous-marine à la plage Mandorak est aussi belle. Ici, il y a beaucoup de sites de plongée pour profiter de la beauté sous-marine. De plus, les visiteurs peuvent également pêcher sur les hautes rochers. Vers le soir, les visiteurs peuvent profiter de la belle vue sur le coucher du soleil sur la plage Mandorak. Pour se détendre, dans les zones côtières est également disponible les maisons traditionnelles Sumba et les bungalows. Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide pour parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Jangan lupa » ou en langue française « N'oubliez pas ». Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Jangan lupa ou en langue française, n'oubliez pas. Tony et la famille de Joko voyagent sur la plage Parangtritis. Tony se lavera le corps après avoir nagé sur la plage. Dinda a rappelé à Tony de payer pour l'utilisation des toilettes publiques.
Dinda, di mana aku bisa mandi?
Oh, di kamar mandi umum. Itu di sana. Jangan lupa bayar ya.
Oke, berapa?
2000.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Jangan lupa » ou en langue française « N'oubliez pas ». Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Jangan lupa. Jangan lupa. En français, n'oubliez pas. Di mana saya bisa mandi? Di mana saya bisa mandi? En français, où puis-je prendre un bain? Kamar mandi umum. Kamar mandi umum. En français, salle de bain publique. Di sana. Di sana. En français, là-bas. Jangan lupa bayar ya. Jangan lupa bayar ya. En français, n'oubliez pas de payer, hein? Berapa? Berapa? En français, combien? 2000. 2000. En français, 2000. Bawa kamera. Bawa kamera. En français, apportez la caméra. Pesan tiket. Pesan tiket. En français, réservez un billet. Besok kita akan pergi ke pantai. Besok kita akan pergi ke pantai. En français, demain nous irons à la plage. Maaf. Maaf. En français, désolé. Dans le dialogue, Dinda a dit, jangan lupa bayar ya. Je répète, jangan lupa bayar ya. En français, n'oubliez pas de payer, hein? L'expression jangan lupa, jangan lupa, en français, n'oubliez pas, est utilisée pour rappeler à quelqu'un de ne pas oublier de faire quelque chose. Exemple, jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. Jangan lupa besok kita akan pergi ke pantai. En français, n'oubliez pas demain nous irons à la plage. Jangan lupa bawa kamera. Jangan lupa bawa kamera. En français, n'oubliez pas d'apporter un appareil photo. Tony, jangan lupa pesan tiket. Tony, jangan lupa pesan tiket. En français, Tony, n'oubliez pas de commander un billet. En rappelant aux gens qui sont respectés, certaines personnes commenceront par le mot maaf. Maaf, en français, désolé. Exemple, Pak, maaf, jangan lupa, besok kita akan pergi ke pantai. Pak, maaf, jangan lupa, besok kita akan pergi ke pantai. En français, Monsieur, désolé, n'oubliez pas, demain nous irons à la plage. Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera. Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera. En français, Monsieur, désolé, n'oubliez pas d'apporter une caméra. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de conversation encore une fois.
Dinda, di mana aku bisa mandi?
Oh, di kamar mandi umum. Itu di sana. Jangan lupa bayar ya.
Oke. Berapa?
2000.
Après avoir écouté la conversation ayant pour titre jangan lupa, jangan lupa, en français, n'oubliez pas, nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existant après. L'exercice est cette fois-ci pour décrire la maladie que vous avez souffert en mentionnant nom de la maladie, quand as-tu éprouvé la douleur, depuis combien de temps es-tu malade, comment on se sent, où cherchez-vous un traitement, combien de fois par jour devez-vous prendre des médicaments. Exemple, nama saya Danu, saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. S'examine, c'est la rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis attrayant pour leur gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical, qui vous présente les chansons indonésiennes. Ce soir, je vais vous présenter les chansons de Kroncong chantées par des chanteurs talentueux d'Indonésie. Restez avec nous à 3200 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Comme l'ouverture, je vous présente une chanson de Kroncong dont le titre est « Kisah Terpendam » ou en français « L'histoire cachée ». Bonne écoute! Voilà la chanson intitulée « Kisah Terpendam » ou en français « L'histoire cachée » chantée par Ratna Listy. Une chanson qui raconte d'un passé quand on était avec des êtres chers. À l'approche du crépuscule, ses souvenirs sont revenus, mais maintenant, ils deviennent des histoires tristes et cachées. Chers auditeurs, en plus de chanteuse, Ratna Listy est également actrice de séries télé et présentatrice. Sa carrière dans le monde du divertissement a débuté avec sa victoire dans les stars de la radio et de la télévision à Java de l'Est en 1989. Ratna a sorti un album intitulé Obsessi en 1998, Azan en 2002 et un album traditionnel qu'elle a créé avec Dul Sumbang et Nini Carlina. Alors, la suite, écoutons une chanson de Cronchon intitulée Pertemuan ou en français Le Rencontre, qui est interprétée par Ika Sugiono.
Thank you.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson d'Ika Sugiono dont le titre est Pertemuan ou en français La Rencontre. Une chanson qui raconte d'un amour qui commence à partir d'un rencontre. Même s'il essaie d'oublier son amant, son cœur l'attend toujours. Chers auditeurs, Ika Sugiono, en tant que l'une des chanteuses de Kroncong talentueuses d'Indonésie, est la fille du légendaire chanteur de Kroncong, s'appelle Sugiono. Sa carrière dans le monde du divertissement, en particulier comme la chanteuse, a commencé lorsqu'elle a remporté la championne des stars de la radio et de la télévision d'Indonésie. Sa fille, Diah Nungki Sugiono, a aussi le talent de chanter comme elle. Chers auditeurs, c'est tout l'édition du magazine musical ce soir. Pour la terminer, je vais vous donner deux chansons s'intitulent Mawar Sekuntum, ou en français Une Rose, par Ratna Listy, et Tanah Air Jaya, ou en français La Patrie, par Tatik. Voici ces deux chansons, bonne écoute et à demain!
Oh,
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Pertiwi tak alasan
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia. SIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.